grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Avant que j'oublie, je vais vous dire tout de suite que les musiques et chansons que vous entendrez aujourd'hui sont interprétées par Negrita, par Jean-Philippe Leclerc et par Yogan. Voilà, comme ça j'aurais pas oublié. Aujourd'hui, l'émission et la prochaine d'ailleurs vont être consacrées à Félix Monget. Félix Monget n'est pas Zigane, c'est un gadjo. Et quand je l'ai rencontré, Félix m'a ouvert sa maison et son cœur. Mais comme tous ceux qui savent ce que c'est que de découvrir l'autre, il se livre à la fois entier et par petites touches. Par sa façon de raconter, il nous montre combien aller vers l'autre peut prendre du temps, mais aussi nous enrichir et abattre les murs des préjugés. Je souhaite sincèrement qu'il y ait plus de Félix dans l'univers, parce que c'est avec ce genre de fou, enfin fou au bon sens du mot, hein, que le monde va évoluer. C'est le genre de fou dont le monde a besoin. Félix Monget, à ma connaissance, n'est pas Zigane, c'est un gadjo. Il est peintre et poète. Mais bonjour Félix.
Bonjour Jean.
Et puis, présente-toi, quoi, c'est plus simple,
oui,
que ce soit
sûr.
Toi.
D'accord, d'accord. Bon, alors, déjà, gadjo, je sais plus. Beaucoup de pérégrinations transversales. Parfois, on oublie d'où l'on vient et qui l'on est. Je préfère citoyen du monde. Hein, voilà. C'est-à-dire que tous ces termes qui, d'après moi, confrontent, affrontent, goy, gacho, étranger, tout ceci me choque et m'a toujours choqué. Alors bon, voilà, je suis... maintenant, un homme qui a plutôt beaucoup vécu, hein. J'arrive à 65 ans, moment de savoir à peu près, ce qui reste important, ce qui est important à dire, à faire, et bien évidemment, la poésie et la peinture sont de magnifiques moyens d'expression. Schématiquement, ma vie se... une très jolie et belle vie et bien remplie, une longue ligne brisée, jeune, malade, hospitalisé longtemps, j'ai pris le goût de la solitude et de la rêverie. Ensuite, un peu plus tard, comme tous les jeunes, je dirais, j'ai aimé divaguer, partir. Je me sentais largement rebelle et il me fallait aller respirer ailleurs le parfum des étoiles. J'aimais bien voyager, me perdre, peut-être pour me trouver. Ensuite, bon, comme j'étais pas bon à grand chose, j'ai commencé à peindre. J'avais 22, 23 ans, oui. Bon, tout ceci était parfaitement mauvais, et tout a été brûlé. J'ai tout passé au feu. Ensuite, j'ai vraiment commencé à voyager beaucoup. J'ai eu de la chance. Bon, je suis entré dans des sociétés multinationales, j'ai découvert le monde. Entre-temps, la perte d'un enfant m'a fait me poser des questions. Donc là, j'ai voyagé comme si j'avais l'enfer au talon. Ailleurs, tout est plus beau, ailleurs, tout est tranquille, ailleurs, nos maisons nous espèrent. Donc, pour les nécessités de mon esprit et de mon travail, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Cette époque, je me perdais entre la Scandinavie, le Royaume-Uni, toute l'Europe, l'Europe centrale, le proche Moyen-Orient, l'Afrique. Bon, voilà. Et il s'est avéré que, ayant perdu donc deux fils, une magnifique question s'est posée. Tu sais, quand on contacte, quand on voit l'autre dans sa vie de tous les jours, quand on, quelles que soient leurs opinions, leur religion, leur couleur, enfin, on se rend compte que ils nous ressemblent étonnamment, que nous sommes tellement proches les uns des autres que ce serait dommage de passer à côté d'eux. Et la perte de mes enfants m'a amené à me poser des questions à propos du gène. Le gène, cette monstruosité qui fait que dès qu'un enfant naît, on se dit « Ah, celui-là, il est de moi ». Évidemment, de quelle légende, à quelle légende appartient-il ? De quelle légende est-il l'héritier ? Non, je me suis dit, je ne peux plus avoir d'enfants, plus de fils, plus... Bon, je suis quoi, une branche morte prématurément. Ceci n'était pas un malheur, mais peut-être un bonheur qui m'a permis de mieux aller vers mon frère sur Terre et vers les enfants qu'il mettait au monde. Et là, je me suis rendu compte que nul autre ne pourrait... Les miens n'auraient pas pu être plus beaux, ni plus merveilleux, ni plus accomplis que ces enfants que j'avais croisés de hasard. Alors, tu veux savoir ce qu'il en est de ma vie ? Un peu plus tard, j'ai bouclé mes valises, plus exactement, je les ai ramenées chez moi. J'ai retrouvé un endroit où me fixer, dans Colnay-sous-Bois, où nous sommes, qui me convenait parfaitement. C'est un endroit extraordinaire, très multicolore, métissé, comme je t'avais dit, où je me sentais particulièrement bien, qui ressemblait au monde que j'avais vu. Et je me suis décidé à ce moment-là à me consacrer à la peinture et à la poésie. C'est-à-dire que tous ces voyages, j'ai creusé le monde du sillon de mes pas. Et puis ensuite, tout ceci fait que, dans le fond, tout l'historique m'avait comblé de trésors et qu'il fallait que j'essaie d'en faire quelque chose. En fait, c'était même pas la nécessité de vouloir faire quelque chose, mais c'était la nécessité de parler, ayant vu un petit peu comment ça fonctionnait ailleurs, comment les sociétés s'organisaient pour le pire et le meilleur. Donc j'ai commencé à peindre et à écrire. Et puis, dans le fond, je devais être préparé à ces rencontres. Et tout à fait par hasard, j'ai rencontré les communautés des gens, du peuple rom. C'est à ce moment-là que je suis entré, tout à fait par hasard, au contact des gitans, des marnouches, des yéniches, des sintés. Voilà. Je dois dire que ces communautés ont terminé de tailler ma pierre. C'est là où j'ai commencé à comprendre, à apprendre, et où j'ai commencé à me sentir bien.
ces communautés ont pour toi une spécificité par rapport aux autres gens ou... Parce que tu disais tout à l'heure que tu as beaucoup voyagé et que finalement tu t'es rendu compte que tous les êtres humains sont quasiment pareils finalement au fond d'eux-mêmes. Mais est-ce que dans ces communautés-là de Manouche, Sinté, Gitan, il y a une spécificité qui t'attire particulièrement ?
Bon, si tu veux, avant de répondre à la question, je vais le faire, très très volontiers. Je voudrais quand même t'expliquer, et puis à ceux qui vont nous entendre, comment ces rencontres se sont produites. Parce que je pense que sinon, on louperait une étape. Mmh. Alors, je me souviens très bien que j'étais parti de Paris sur Marseille, où j'avais rendez-vous avec un ami. Un grand, grand ami, cher à mon cœur. Un médecin, une belle âme, bon. Un peu grande gueule, et puis qui aimait bien, comme moi à l'époque, user et abuser de tout ce qui est un peu euphorisant. Donc, voilà, nous étions de superbes vivants. Avec ma femme, donc, nous étions arrivés à Mimet, c'est près de Marseille. Hein. Un jour donné, nous ne savions pas trop comment faire pour tuer le temps. Elle m'a dit, écoute-moi bien, toi tu ne sais rien, je vais te faire découvrir les Gitans. Le monde des Gitans, nous allons, toi et moi, aller au Saint-Paris de la mer. Les Gitans, bon, ça faisait pas partie de mes préoccupations au quotidien. Hein. Je savais qu'ils existaient, mais je n'en savais pas plus. Bon, voilà. Et puis nous sommes partis de Marseille vers les Saintes-Maries-de-la-Mer. Et une charmante petite bourgade, c'était ensoleillé, on était arrivé sur le moment du déjeuner. Mon ami, qui me disait tout connaître, commençait à être un peu perdu. Donc nous marchons un peu, on déambule autour de l'église, et puis bon, il se fait un petit peu... tiré par la manche par les diseuses de Bonaventure. Alors, tu n'as pas peur des gitans, j'espère. Et je voyais mon grand gaillard de Bernard complètement effondré, totalement effrayé, qui essayait de se sortir de cette situation. Enfin, bref, ça l'avait marqué terriblement. Bon, moi, finalement... on peut être dans d'autres endroits du monde et voir des gens qui nous demandent gentiment une petite pièce, et puis voilà. Bon, là, c'était pas un marché de dupes, en fait. Hein. Elle voulait une petite pièce contre une petite pièce nickelée à l'effigie de Sarah. Et j'avais compris que Bernard, mon ami, était un petit peu mal à l'aise, et puis après le déjeuner, quand il a fallu faire marche arrière pour rejoindre la voiture, même problème, même topo. Cette grande frayeur. Alors, effectivement, et avec plus tard, j'ai revu la personne qui l'avait tellement dérangé, de la famille des Gorgane, bonne face, bien cuite, des yeux luisants comme la lumière du soleil, enfin pétillants, des gens merveilleux. Mais donc je l'ai su plus tard, et nous sommes rentrés à Mimet. Nous sommes rentrés à Mimet, le soir nous devions déjeuner ensemble, dîner ensemble. J'ai trouvé Bernard dans un état catastrophique. Il était mal, très mal dans sa peau. Et il avait dû se trouver gêné d'être aussi craintif dans ce monde qu'il prétendait si bien connaître. Et il a tenu des propos abominables. Parlant du passé, de ce que j'ignorais à l'époque, du génocide de Tsigane, du Samu Daripen, des propos invraisemblables disant « Oh, les Allemands n'ont pas terminé le travail, il aurait dû fallu finir tout ça. » Oui, c'était une révélation que des gens qu'on pense connaître intimement puissent nourrir d'aussi sombres pensées, uniquement nourries par la peur. En réalité, c'était la peur de l'autre qui faisait que il était devenu, d'une certaine manière, fou furieux. Bien. Plus tard, il s'est grandement racheté. Plus tard, je suis revenu à Aulnay-sous-Bois. J'avais acheté un CD de Manolo, de Ricao. Et avec ma femme, on écoutait cette musique, c'était délicieux. On connaissait encore rien du tout de ce monde-là. Mais en ma qualité d'humaniste, je me suis dit, il faut que je tire quelque chose de cette expérience. En ma qualité de peintre, peut-être, pourrais-je faire quelque chose. Donc, dans les mois qui suivaient, j'avais fait deux tableaux, une prière gitane et un requiem, qui, par la grâce de... Je pèse mes mots, hein, ça c'est ma conviction, par la grâce de Dieu, ont été acceptés dans la crypte des Saintes Marie de la Mer, avec un poème. Le poème s'intitule, il est toujours dans la crypte au pied de Sarah, la prière gitane. Et les deux tableaux sont entrés, grâce au Père Morel, dans cette crypte, et sont restés 5 ans à côté de Sainte Sarah. Tableaux que j'ai dû retirer, qui sont maintenant dans mon atelier tout en bas de la maison. Car il s'apprêtait à brûler tellement il fait chaud dans cette crypte. Et j'y avais représenté mon ami Bernard sous la forme d'un gitan, c'est-à-dire que je lui avais donné de la couleur. Il s'était retrouvé contre son gré, semble-t-il, dans la crypte. Il s'était retrouvé confronté à sa propre colère, à sa propre ignorance. Entre-temps, Bernard et moi, nous avions beaucoup parlé, et plus tard, connaissant beaucoup mieux les communautés roms, il a fait des choses merveilleuses pour elles. Notamment, il a mis son talent de médecin à leur service. Voilà, donc il s'était grandement racheté. Il n'était pas du tout l'homme que... Alors parfois, les grandes colères comme ça feraient apparaître, que personnes sont décidément incurables, qu'on n'arrivera jamais à en tirer rien. Mais il avait appris à connaître, et il avait appris à aimer. Alors, les spécificités. Pour tout dire, oui, les spécificités, c'est... On peut dire que tous les gens, peu ou prou, se ressemblent. Mais, oui, voilà, c'est ça. Il y a de la chair, il y a des os, il y a des squelettes. Ils se ressemblent tous en ce sens où ils sont tous sous le toit des étoiles et ils font des rêves. Tous les gens se ressemblent, ils ont des espoirs, de l'espoir. Ils ont des enfants, ils les élèvent de leur mieux, ils subviennent à leurs besoins, ils le font de leur mieux. Ils tentent de les mettre en sécurité, ils tentent de faire que leur avenir soit meilleur que ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Ils se distinguent par le fait de leur religion, et encore, on n'en sait rien. Ils se distinguent. Mais ils sont tous dans des sociétés organisées, la plupart d'entre eux. Les communautés roms m'ont apparu assez rapidement complètement différentes. D'abord, il m'a fallu attendre longtemps, gratter longtemps à la porte avant de bien les connaître. Donc, cette affaire maintenant qui dure depuis 17 ans, 17-18 ans, Cette connaissance n'est pas arrivée d'une manière intuitive et naturelle. Il a fallu persister, gratter à la porte, et encore, jusqu'au moment béni où les premières rencontres se sont faites, et après que nous nous soyons beaucoup parlé, beaucoup regardé, espéré, attendu, il est arrivé le moment merveilleux où nous avons pu faire ensemble. Alors, ce que j'ai observé, qui est différent de tout ce qu'on peut imaginer de peuples criminalisés, livrés à la vindicte. Je me suis rendu compte que ces gens étaient d'une humanité extraordinaire, que leur mode de vie, leur façon d'envisager la vie, leur façon de vivre ensemble, entre eux et avec ceux qui voulaient bien aller vers eux, qu'ils avaient un amour à donner, qu'ils étaient pleins de bon sens. Je pense m'être élevé dans mon humanité à leur contact. Des gens qui se moquent réellement de toutes les contingences financières, ils ne construisent pas leur vie, comme beaucoup d'autres sociétés, pour s'établir et devenir immensément riches. Leur richesse reste leur mode de vie, leur patrimoine, ça reste, c'est le peuple du vent, et toujours insaisissable, il s'intéresse à des choses insignifiantes mais extrêmement importantes. Ils sont capables de beaucoup d'amour, et ils sont capables d'en donner énormément. Ce sont des amis particulièrement fidèles, toujours craintifs cependant. Leur spécificité, c'est le fait que, depuis toujours pratiquement, ils ont été écartés, ils ont subi de graves violences physiques et intellectuelles. Ils ont été pourchassés, sans aucune raison particulière, que celle de leur différence. Donc, ces communautés ont reçu l'opprobre, ont été successivement mises en esclavage dans tel ou tel pays, ont été les forgerons des clous du Christ en croix, puis ont volé les enfants pour les revendre, puis ont volé les poules dans les fermes, bien encore aujourd'hui. Et ça me fait, c'est une brûlure, ça m'ouvre tout le temps la poitrine et le cœur. Toujours le regard de l'autre, la défiance à leur égard. Voilà leur spécificité, c'est leur immense capacité à résister à cette violence qu'on leur fait, et en conservant une fraîcheur d'esprit que nous avons. Nous, les sociétés dites civilisées, perdues depuis longtemps.
La prière gitane. Ce poème, écrit par Félix Monget, a été déposé le 7 février 1997 dans la crypte de l'église forteresse des Saintes-Maries de la Mer. Sous la semelle de toutes les poussières empruntées au chemin de dérive, comme les larmes séchées à nos joues, témoins des crevasses de nos âmes bleuies de coups, le chagrin nous attend. Il est dans le soupir, dans la note qui s'éteint, quand la corde a cessé de vibrer et que l'esprit rongé de souvenirs nous nous endormons. Alors, à la mémoire, les peines s'effilochent. Gitans d'un autre, nous sommes jetés sur les routes. Demain, la belle aurore finira la nuit. Braise noircie des feux refroidis. Ne restera pour le temps d'avant le vent que nos cendres à la terre mêlée. D'autres, terrassés, d'autres ont attendu la mort équitable. D'autres, étrangers, violon brisé, poursuivi par un destin implacable. D'autres, exclus, Romano et Zigane, leurs cris ensemencent le monde. L'encre dans les livres écrit le sang de l'histoire. C'est une litanie calligraphiée. Toutes ces lignes pleurent des noms oubliés. Mère de nos mémoires, mère des jours anciens, mère des voyages de nos familles disparues, Sarah, près de nous, nous allons sur la mer. Comme nous, apatrides, les eaux bercent les lointains rivages. Ailleurs, tout est plus beau. Ailleurs, tout est tranquille. Ailleurs, nos maisons nous espèrent. Jacobé, Salomé, Marie Sainte, nous vous apportons nos enfants. Changez, nous vous en prions, à leurs yeux la lueur qui chavire, ce patrimoine de la douleur qu'ils transportent à peine sortis des ventres de leur mère. Mais pour longtemps, le chant des guitares pleurera. Il faudra encore partir, aller vers l'endroit où l'écho des sanglots nous appelle, divaguer sous les cieux innombrables. Tu disais que tu avais dû gratter longtemps à la porte, en quelque sorte. Mais une fois que ces portes se sont ouvertes, tu as vécu avec eux ?
Alors, les portes se sont ouvertes progressivement. Oui, progressivement. C'est toujours la magie des rencontres. Donc moi j'étais arrivé avec ma bonne volonté, mon cœur battant. J'étais prêt à tous les partages, à tous les dialogues. Mais oui, ça a pris du temps simplement parce que, et il faut le comprendre, Quand au quotidien, on est victime de la vindicte et du refus et de l'ostracisme en réalité, on se demande tout le temps, est-ce que la personne qui vient vers moi est de bonne foi ? Mais comme je te l'ai dit, ils sont généreux et aimants, n'est pas tardé à arriver le moment où les premières portes se sont ouvertes. Alors la première d'entre elles a dû être celle d'Esmeralda, Esmeralda Romanes. Esmeralda est une personne assez extraordinaire. C'est elle en réalité qui a commencé à beaucoup m'apprendre et à beaucoup me dire et à me faire connaître ce monde que j'avais tant envie de découvrir. Esmeralda, pour ceux qui l'ignorent, c'est une poétesse manouche, c'est une grande défendresse des droits de son peuple. Et en même temps, son histoire personnelle a fait que elle a longtemps vécu comme une grande injustice le sort que l'on avait réservé à son père, Raoul Rodemé. C'était un manouche, mais citoyen français, qui avait été, au moment de la dernière guerre mondiale, interné dans des camps, puis livré à l'Allemagne nazie. Et bien qu'il ait été français, dès son retour des camps de la mort, il avait été réincarcéré en camp avant de ne retrouver la liberté qu'en 1946. Bref, ça c'est une autre histoire, peut-être pourrons-nous en parler. Donc Esmeralda et moi avons parlé longtemps. Elle était ma première, disons que mes premiers enseignements de ce monde viennent d'elle. Et ensuite, après Esmeralda, donc Esmeralda m'a permis d'aller à la rencontre d'autres personnes. Dans le fond, c'est une chaîne, c'est une communauté. Un premier contact en nous d'autres. Ensuite est venu Roland. Roland, mon frère, c'est la moitié de moi-même. Roland Ribaud, un homme d'une humanité, d'une intelligence, d'une brillance extraordinaire. Si j'avais le dixième du quart de son talent, je serais un homme heureux. Capable de s'exprimer dans quantité de langues. Il connaît les philosophes, les grands philosophes. Il connaît tous les ouvrages importants qui ont bâti l'humanité. Il est extrêmement doué, ébéniste d'art. Il sait jouer de toutes sortes d'instruments. Il a été circassien. Une vie extraordinaire, une famille formidable, les Ribaud. Alors, avec Roland également, nous avons beaucoup parlé. Nous avions en commun également quelque chose qui faisait que nos mains avaient reçu les mêmes zones de nos yeux. Nous avions perdu des enfants, lui et moi, dans des circonstances pas tout à fait identiques. Mais voilà, ça nous avait mis en situation de bien nous comprendre. Et puis, Roland, c'est mon frère dans la montagne, c'est la roulotte où j'ai pu m'installer. Le feu qui m'a chauffé, qu'il m'avait préparé. Après, il y a eu ma douce et tendre Louloudji, la famille Gorgan, diseuse de bonne aventure. Mais elle ne m'a jamais promis rien, ne m'a jamais rien dit. Elle n'espérait qu'une chose, c'est qu'au détour de l'église où elle tenait commerce, j'apparaisse pour pouvoir boire un café avec moi. Et on se parlait de la vie. Et on se parlait de la Hongrie que sa famille avait dû quitter faisant suite aux persécutions dont son peuple faisait l'objet. Et puis on a parlé de la difficulté de la vie en France. On a parlé des enfants de son petit décédé dans une roubine. Et elle me tenait la main d'un étrange amour. Et une fois, m'avait-elle dit comme ça, « Je ne vais rien dire de ta vie. Certainement, tu pourras faire des grandes choses pour les Tziganes. » Et elle m'a embrassé. Et puis un jour elle est décédée, mais voilà, elle et moi nous parlons tout le temps. Nous sommes toujours dans un étroit contact. Et puis ensuite il y a eu Manolo. Manolo, c'était le frère de Luigi. Et puis avec lui, ça a été la même amitié féroce. Après Manolo, c'était lui et moi chantions. Il jouait de la guitare et nous chantions ensemble. Et puis après Indalecio, mon grand ami Indalecio, le gitan, le lion gitan. Et puis après Indalecio, il y a eu les Le Fleur et avant les Le Fleur d'autres. Si bien que, au fur et à mesure, j'ai vécu avec eux. Tellement intimement, ils sont tellement intimement liés à ma vie, que pas un jour que je vis, ils ne soient avec moi et que nous nous contactions. Alors, une autre différence par rapport aux gens de la modernité qui oublient si vite leurs amis, c'est que leurs amitiés sont, une fois données, pesant mes mots, je dirais, indestructibles, pour peu qu'on ne les déçoive pas.
Thank you.
Eh bien voilà, ça va être fini pour aujourd'hui. Nous retrouverons Félix la semaine prochaine. En attendant, je vais dire un grand merci à Nico qui va monter cette émission. Et à vous, je vais dire la Tchodrome. Mais avant, je veux vous dire que, comme presque d'habitude, je vais lire deux poèmes pendant le générique de fin. Et bien sûr, puisqu'aujourd'hui j'ai un poète à ma disposition, ces poèmes ont été écrits par Félix. D'une vie à une autre. L'amour du grand alchimiste s'est penché sur moi. Il savait mon cœur. Il m'a remis les clés de son paradis. Me quittant pour d'autres affaires qui pressaient, le vent, il m'a soufflé « Fais bon usage de ta nouvelle vie ». Le troc s'est conclu qui n'était pas de dupe, mon poids en cailloux contre le même de diamant. Au banc d'une classe d'un genre différent, je suis redevenu l'enfant qui réapprend. Je suis devenu le taureau conduit à la ferrade, qui a reçu le nom de sa manade, l'empreinte de sa tribu sur la peau. Mi-gitan, mi-manouche, je cours par les prairies de Dieu, homme nouveau, romano. Le hérisson est mon emblème, le niglo, si doux, qui se faufile au taillis. Même la tradition fout le camp. Je suis gitan et je joue de la guitare comme un pied. Deux mains de cinq doigts, bout des bras, bois mort. Je ne suis pas Manitas. Le vieux ne m'en voudra pas d'avoir pris un autre métier. Je suis gitan et j'ai deux pieds, bout des guitares. Je m'en sers pour marcher. Je ne passe pas mon temps à claquer des talons sur un parquet. Le flamenco, c'est compliqué. J'ai pris un autre métier. Je suis gitan, il fait froid ce matin, un temps à claquer dans ses mains. Olé ! C'est dans les disques seulement. Ce matin, je sonorise le silence. Je claque des mains et peut-être des dents. Le froid me pèle et je danse. Le vent de glace m'accompagne à mon métier. Une usine du coin m'a tendu un bout de pain. Je n'ai pas remercié, mais je l'ai pris. Si un jour j'ai deux ronds à flamber, j'achèterai une guitare et je me mettrai à chialer.